L'insertion en Isère. Dispositif, action, information, témoignage. Les radios associatives iséroises donnent la parole aux acteurs de l'action sociale et de l'insertion départementale. Cette émission s'inscrit dans une série de sujets réalisés par les radios Couleur FM, Radio Grésivaudan et News FM en partenariat avec le Conseil Général de l'Isère.
L'Observatoire national de la précarité énergétique vient de rendre public son premier rapport. Un Français sur cinq est concerné par la précarité énergétique. Alors, jour après jour, bien sûr, la précarité énergétique se propage pour toucher toujours plus de Français dans un contexte de crise sociale, d'incertitude économique et de hausse des factures d'énergie, en raison notamment de l'augmentation des prix, de la contribution au service public de l'électricité, mais aussi de logements mal isolés. Alors, sont autour de cette table pour évoquer les causes, les conséquences et enfin quelques pistes de réflexion et de solutions autour de la précarité énergétique. Madame Violette Guillot, chef de service du service social Conseil général de l'Isère, Porte des Alpes. Geneviève Rollion-Bourcelin, chef de projet pour le grand projet Rhône-Alpes Nord-Isère Durable. Mais la fonction ne s'arrête pas là. Je vous laisse compléter votre fonction.
Oui, merci, bonsoir. Effectivement, le grand projet Rhône-Alpes Nord-Isère Durable s'intéresse à la construction durable, mais j'ai également la responsabilité du plan climat-énergie territorial et de cette nouvelle labellisation du territoire de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère et des Vallons de la Tour de territoire à énergie positive. Mais on pourra revenir là-dessus tout à l'heure.
C'était juste la présentation. Avec nous également Audrey Bernardin, responsable du service Habitat Capi. Avec nous aussi Sophie Coquet, référente sociale de l'action et co-capitaine de l'équipe Famille à énergie positive à l'île d'Abeau. Avec nous également Christophe Delmastro, directeur de l'agence de l'OPAC à Villefontaine. Et puis aussi Julien Ducrotois, responsable du pôle animation sensibilisation à l'AGEDEN. Une question brutale, qu'entend-on par précarité énergétique ? Julien Ducrotois.
Bonsoir. La loi du Grenelle a défini la précarité énergétique de la façon suivante. Les foyers qui ont des revenus dont 10%, plus de 10% sont consacrés aux dépenses énergétiques au niveau de l'habitat sont considérés comme étant en précarité énergétique. Donc peut-être une petite précision sur les consommations d'énergie de l'habitat. Elles comprennent les consommations liées au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et l'électricité dite spécifique, c'est-à-dire les consommations d'électricité qui ne sont pas celles liées au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire.
Alors les conséquences de la précarité énergétique sont sans aucun doute très nombreuses, financières, techniques, conséquences pour la sécurité des ménages aussi, conséquences environnementales. Alors Christophe Delmastro, vous êtes directeur de l'agence de l'OPAC à Villefontaine. Parmi les conséquences de la précarité énergétique, certainement les relations entre bailleurs ou les fournisseurs d'énergie se trouvent certainement plus compliquées, plus tendues. Comment vous vous préoccupez de cette question-là en étant directeur de l'agence à Villefontaine ?
Alors, bonsoir à tous. Effectivement, l'OPAC 38 a comme démarche aujourd'hui, à travers son plan stratégique du patrimoine, le PSP, une attention toute particulière sur, les consommations excessives liées aux bâtis, en tous les cas, liées également au comportement et puis liées aussi à la construction, puisque aujourd'hui, sur la ville nouvelle, c'est 70% de logements sociaux qui sont équipés avec du tout électrique, du convecteur. Et notre priorité est de sortir, en tous les cas, ces locataires qui se trouvent quelquefois et même très souvent en souffrance par rapport à cette énergie, pour les réinstaller dans un bâtiment qui soit adapté en fonction d'une énergie moins forte en tous les cas que l'électricité. On travaille, par exemple, sur Villefontaine, sur un projet de réseau urbain de chauffage. On travaille également sur l'île d'Abeau, sur d'autres dynamiques, et on est complètement dans cette attente aujourd'hui.
Madame Violette Guillot, vous êtes chef du service social Conseil général de l'Isère, Porte des Alpes. Est-ce qu'il y a de plus en plus de familles précaires sur le territoire ou de façon générale? Est-ce que vous constatez une certaine évolution, mais dans le mauvais sens? Et est-ce qu'on vous sollicite de plus en plus aussi à travers un fonds social?
Oui, donc le Conseil général intervient grâce à un fonds qu'on appelle le Fonds de solidarité logement et on constate une demande de plus en plus croissante de familles qui sont en difficulté et en précarité, notamment sur des communes comme Villefontaine-l'Île-d'Abeau où les factures EDF dues au chauffage sont vraiment très très importantes et la précarité, ben, c'est quand on n'arrive plus à payer ses factures. Et que le risque quand même, c'est à terme d'être coupé et de ne plus pouvoir se servir de l'électricité. Donc ça pose de gros problèmes au niveau des familles, avec des factures de plus en plus élevées. Et les évolutions c'est, qu'on y voit, c'est de dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui risquent d'être touchées par la précarité énergétique, parce qu'on se rend compte que des personnes qui sont aujourd'hui avec des ressources enfin, un peu inférieure à la moyenne, risquent de tomber effectivement dans la précarité énergétique et de ne plus pouvoir payer leurs factures.
En quoi consiste votre job ?
Donc j'encadre une équipe, enfin des équipes d'assistantes sociales qui reçoivent des personnes qui sollicitent le service parce qu'elles n'arrivent plus à payer donc leurs factures. Et donc l'assistante sociale est là pour voir quelles sont les difficultés des familles, comment on peut les aider à faire face à leurs difficultés, sachant que le fonds donc du Fonds de solidarité logement ne peut être que une partie de la solution, hein, puisque il y a à la fois des critères de ressources qui varient suivant la composition de la famille, mais aussi des montants d'aide qui sont plafonnés. Donc il y a une partie du public qui en est exclue lorsque les ressources sont supérieures au barème, et ces aides ne peuvent être que ponctuelles et ne sont attribuées que dans le cadre d'un projet de retour à un équilibre budgétaire. Donc forcément des aides limitées.
Comment faire pour éviter que la facture grossisse ? Il y a certainement un accompagnement aussi à faire au plus près des familles. Geneviève Roulion, je veux bien prendre la parole, notamment pour parler du plan climat énergie territorial qui a été initié par les deux collectivités et qui vise effectivement à accompagner avec les partenaires tels que l'AGEDEN, mais aussi les centres sociaux, les familles sur les nouveaux gestes, sur la prise de conscience que, aussi par le geste et pas simplement par l'investissement, on peut faire changer sa facture énergétique. Alors, bien sûr que ça ne va pas régler tous les problèmes, mais je pense que l'exemple récent de l'équipe qui a été entraînée par le CCS de Lille-Albo en est une belle illustration.
Alors justement, Sophie Coquet, alors bravo, félicitations. Lille-Albo est arrivée en première position l'année dernière. Au défi famille énergie, vous allez renouveler l'opération à partir du 1er décembre, une nouvelle campagne d'inscription se met en place avec des réunions de sensibilisation, notamment avec la GEDEN à Bourgoin-Jallieu la semaine prochaine. C'est peut-être la GEDEN qui va peut-être présenter de façon générale le défi.
Famille à énergie positive, qu'on appelle aussi dans le monde des sigles FAEP, il a pour objectif de mettre des familles, on ne va pas dire en concurrence, mais plutôt de créer une émulation au sein de plusieurs familles, de manière à ce que elles puissent faire des économies d'énergie en donc jouant sur les trois usages que je citais tout à l'heure, le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'électricité spécifique. Donc déjà je dirais même avant qu'il y ait une émulation entre les familles, puisqu'elles vont comparer leur consommation d'énergie les unes aux autres, il y a également une comparaison qui est faite au sein de la famille, puisque le défi FAEP a pour objectif de connaître les consommations de l'année précédente et de les comparer à l'année en cours. Voilà, donc on va, dans le cadre du défi, faire l'inventaire des consommations d'énergie de l'année précédente, et puis au fur et à mesure de l'avancement, donc ça a lieu au moment de la saison de chauffage, au fur et à mesure de l'avancement de cette saison de chauffage, les familles vont saisir sur Internet, là, sur un outil Internet, une plateforme, leur consommation et pouvoir constater que les efforts faits par tous les éco-gestes qui leur ont été enseignés dans le cadre du défi vont permettre de faire des diminutions. Voilà, l'objectif étant de faire une diminution de l'ordre de 8-10%. Parfois, ça va bien au-delà.
Sophie Coquet, alors comment vous avez réussi une telle victoire l'année dernière? Comment vous avez mobilisé les familles, l'Ilote aussi? Est-ce qu'il y a eu un sacré répondant ou pas? Est-ce que certaines se sont vite engouffrées dans ce dispositif? Quelles sont les retombées? Et puis tout à l'heure, nous aurons en témoignage Florence, hein, une famille qui a participé l'année dernière. Comment ça s'est traduit? Donc des réunions de sensibilisation?
Alors dans un premier temps, on a plusieurs familles en fait qui se sont manifestées de façon autonome auprès de notre service pour faire partie de cette équipe. Et nous avons aussi dans nos suivis au travers du CCAS des familles qui à qui nous avons proposé en fait ce défi, qui nous ont répondu bien évidemment avec grand plaisir, sachant qu'ils avaient déjà des difficultés pour payer leurs factures, pour lesquelles certaines avaient bénéficié de fonds de solidarité énergie, mais qui ne pouvaient pas forcément, en tout cas, payer la totalité de leurs factures. Donc, nous mettons en place chaque année depuis donc 2 ans. Donc là, on va attaquer la 3e saison. Ce fameux défi pour lequel nous mettons chaque mois en fait des petites réunions collectives où nous abordons des thématiques pour sensibiliser les personnes aux éco-gestes. Donc ça peut être la consommation d'eau, l'achat d'ampoules à économie d'énergie, voilà, plusieurs thématiques qui sont demandées aussi par l'équipe qui s'investit.
Alors d'ici une dizaine de minutes, nous aurons Florence en ligne, mais afin de sortir de manière pérenne les ménages en situation de précarité, des travaux sont nécessaires. On parle de mal logement, de logement insalubre. Audrey Bernardin, je m'adresse à vous. Effectivement, l'ACAPI soutient la population à travers des aides. Comment vous fonctionnez?
On a deux volets aujourd'hui pour lutter contre la précarité énergétique. On a lancé depuis 2010 un appel à projet sur le parc social existant. Donc c'est un appel à projet sur la rénovation thermique avec deux volets. Le premier en fait, c'était de continuer à veiller à l'attractivité en fait de ce parc social qui vieillit. Comme le disait Christophe tout à l'heure, on a effectivement un parc social principalement doté de chauffage individuel électrique sur l'ancienne ville nouvelle. Et sur le secteur bergalien, on a plutôt du bâtiment des années 50 sans chauffage structurant. Donc on a une enveloppe financière de 100 000 euros. On a mis en place effectivement des critères propres définis par l'agglomération. Et depuis 2010, on a financé près de 500 logements sociaux. Et le deuxième enjeu, c'était aussi de réduire en fait la facture énergétique pour les locataires. Et donc, on essaye effectivement de travailler en collaboration avec les bailleurs sociaux et une sensibilisation auprès des locataires. Et la deuxième action concerne l'OPA, donc l'opération programmée d'amélioration d'habitat, avec un volet sur la précarité énergétique à destination des propriétaires occupants très modestes. Voilà, ils peuvent bénéficier des aides en fait de l'ANA et du programme Habiter Mieux.
Quand les bailleurs sociaux vous voient arriver, Audrey Bernardin, ou quand vous les sollicitez, est-ce que vous avez un bon accueil? Alors, je m'adresse peut-être à Monsieur Del Mestro. Comment vous vous accaparez cette question des travaux?
Alors, effectivement, quand l'ACAPI et Audrey nous interpellent, en tous les cas, pour des appels à projets, c'est clair que, déjà, il faut qu'ils correspondent aussi à notre plan et de programmation de PSP. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut pas dire il y a un appel à projet, il faut qu'on réponde si derrière, on n'avait pas programmé cette opération. Et bien souvent, pour nous, c'est la phase la plus compliquée, c'est d'être effectivement dans une même démarche, l'appel à projet et notre programmation. Et dès qu'effectivement, on arrive à trouver et on concorde nos actions, c'est clair que c'est gagnant-gagnant, puisque il y a effectivement, comme on l'a dit, et il l'a très bien dit Audrey, c'est qu'il y a une participation importante de l'ACAPI pour ces logements et pour ces bâtiments-là. Et puis également, il y a du comportemental, c'est-à-dire qu'on peut aussi, de ce côté-là, travailler sur et accompagner la personne qui va avoir des travaux dans son logement à comment mieux vivre, en tous les cas, comment respecter les consignes qui sont données, puisqu'on change de mode de chauffage, et on change aussi d'habitude et de fonctionnement.
Il y a forcément un accompagnement parallèle à côté de ces travaux. Il faut accompagner la famille, il faut accompagner les locataires.
Alors, tout à fait. Là, je me retourne un peu vers Violette parce que on est complètement dans cette démarche-là où il y a un partenariat fort qui a été mis en place sur des groupes, en tous les cas ciblés sur Villefontaine, sur cette précarité énergétique, et on travaille ensemble pour pouvoir communiquer, mieux communiquer et s'efforcer les uns les autres pour aller au même but et éviter de se disperser. Un exemple simple, c'est que nos familles sont les familles qui bénéficient également des aides. Quand on dit elles bénéficient des aides, ce sont aussi nos impayés. Et comment est-ce qu'on peut sortir ces gens de la difficulté en leur permettant d'avoir une vie sociale, en tous les cas, qui permette à chacun d'y rester. Alors, ce que je voulais aussi souligner par rapport à ce qui est dit, c'est que, hormis ces aspects de solidarité, quand une personne ne chauffe plus un logement, elle met en difficulté les autres logements. C'est du collectif. C'est-à-dire que quand deux ou trois personnes dans un immeuble ou une allée ne chauffent plus, c'est les autres qui chauffent. Et la solidarité, elle se fait, je dirais, indirectement, mais c'est d'autres personnes qui sont encore mises en difficulté et qui sont nettement plus à suivre que d'autres.
Il y a forcément des réunions de sensibilisation aussi sur les éco-gestes ou autres. Peut-être que l'AGEDEN a toute sa place dans ces réunions-là, non ?
Je ne l'ai pas dit tout à l'heure en préambule, mais l'AGEDEN est donc financée par l'ADEME, la région Rhône-Alpes, et les collectivités locales, hein, dont la CAPI et la CCVT, pour réaliser ces actions. Au sein de ces actions, il y a effectivement des événements qui consistent à faire de la sensibilisation. Donc ça peut passer par des soirées thermographiques, qui ont pour objectif de montrer où se situent les déperditions thermiques des bâtiments. Donc là, je dirais que ça s'adresse à tout le monde à titre de culture générale, mais plus particulièrement à des propriétaires occupants ou bailleurs qui sont susceptibles de passer en travaux d'isolation par la suite. Également, elle propose des ateliers éco-consommation qui ont pour objectif là de montrer, pas forcément sur uniquement la ligne énergie, mais ça peut être sur l'alimentation, ou sur la fabrication de produits ménagers avec des produits peu chers et écologiques, qu'on peut avoir d'autres modes de consommation.
La suite de votre entretien dans quelques instants.
Du lundi au dimanche à 8h et 13h et le dimanche à 18h, retrouvez toute l'actualité de votre territoire dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM.
I took a trip on a train. Thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream. Moon shining down on some little town, and with each beam, the same old dream. In every stop that we made, oh, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeked through the crack and looked at the track, the one going back to you. And what did I do? I thought about you.
took a trip on a train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream. Moon shining down on some little town, and with each beam, the same old dream. And every stop that we made, oh, I thought about you. And when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeked through the crack and looked at the track, the one going back to you. And what did I do? What did I do? What did I do? I thought about you.
Du lundi au dimanche à 8h et 13h et le dimanche à 18h, retrouvez toute l'actualité de votre territoire dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM.
Madame Geneviève Rollion-Boursolin, vous êtes chef de projet pour le grand projet Rhône-Alpes Nord-Isère Durable, mais également vous vous préoccupez du plan climat-énergie. Voilà. Que peut apporter de grands projets comme celui-ci? Votre fonction est certainement très complexe, elle n'est pas simple. Autour de cette thématique précarité énergétique?
Non, finalement, elle n'est pas si compliquée que ça, puisqu'en fait, on agit en amont. Alors, dans le cadre du grand projet, c'est comment finalement les acteurs de la filière de la construction durable se rassemblent pour trouver les nouveaux modes constructifs ou les nouveaux modes de rénovation qui vont permettre de moins consommer d'énergie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un chantier d'innovation au travers la question des matériaux, mais je pense que la question la plus importante est certainement la question d'un meilleur dialogue entre les différents métiers de la filière de la construction. Et nous nous attachons actuellement dans le Nord-Isère à cela et avons démarrer et inventer en quelque sorte la plateforme Astuces Construction, justement pour permettre ce dialogue et permettre de donner des moyens qui vont permettre de trouver des outils nouveaux et construire et rénover des bâtiments moins énergivores notamment. Donc là on est dans la phase amont. Il y a aussi également un impact sur la filière et donc sur le développement économique. C'est comment on arrive à accompagner les entreprises du territoire pour qu'elles soient compétentes et comment on les accompagne pour qu'elles se préparent au marché de demain. Parce qu'on parle beaucoup de réglementation. Nous sommes en train de préparer la réglementation de 2020. C'est-à-dire qu'on prépare les entreprises de territoire à être bien en phase et notamment être en capacité de répondre au marché de demain. Et du coup, ce territoire devient un territoire d'expérimentation pour déjà mettre en œuvre ces nouvelles pratiques. Donc effectivement, c'est une autre façon de contribuer à la précarité énergétique, mais de prévention, en quelque sorte, voilà, au titre du grand projet. S'agissant du plan climat, on l'a évoqué avec le défi famille à énergie positive, les balades, enfin, tout le volet sensibilisation. Je pense que c'est effectivement très important de mener de front l'ensemble de ces actions. On le voit bien, je crois que ça doit concerner tout un chacun, à la fois dans sa responsabilité, dans son institution, mais aussi dans son, en tant qu'individu, on est tous concernés. Et je crois que si on veut tendre à trouver des solutions, il faut que tout le monde se mobilise et la famille aussi fait partie des acteurs et on s'aperçoit qu'elle peut être aussi un acteur important de cette question-là.
Alors là, autour de cette table, évidemment, donc alors le département, l'agglomération, un bailleur, directeur d'agence opaque, différentes structures aussi, mais est-ce facile de réunir tout ce petit monde pour bien s'entendre, pour bien préparer l'avenir?
Alors moi, je veux bien répondre sur ce sujet, puisqu'on a fait ce travail autour de la filière des métiers de la construction, donc qui ont permis d'aboutir à cette plateforme dont je parlais, Astuces Construction. Et actuellement, on travaille à une réponse à un appel à manifestation d'intérêt avec les acteurs du territoire pour mettre en place une plateforme de rénovation en direction des particuliers et pour le logement privé. Il s'agit effectivement de prolonger le travail. Je crois que c'est parce qu'on a aussi cette richesse qui a été évoquée, hein, toutes ces initiatives, et de voir ce qui peut nous manquer encore sur le territoire pour être encore plus efficace et pouvoir répondre et accompagner davantage de familles, à la fois redonner de la confiance aussi entre le particulier et les entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de démarchages, beaucoup de sollicitations pour faire des travaux de rénovation, et c'est vrai que le particulier parfois se perd un peu entre est-ce que je dois changer mes fenêtres ou est-ce que je commence par changer ma chaudière. Donc la GEDEN accompagne cette dynamique-là, mais nous sommes en train de réfléchir comment aller plus loin, encore plus, pour pouvoir donner les outils, l'accompagnement et les moyens pour pouvoir rénover encore plus et porter à la connaissance ce qui existe sur le territoire. Et ça passera nécessairement par une cohérence des acteurs et des actions menées ensemble, mais je crois qu'on est sur le bon chemin.
Un état des lieux est fait, hein, sur les offres existantes sur le territoire. Alors qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'il manque des choses ?
Il manque pas grand-chose finalement. Il manque justement ces petits liens d'articulation. Il manque peut-être de faire un petit peu plus, parce qu'aujourd'hui on accompagne un certain nombre, mais la demande devient plus importante. Donc comment on redonne des moyens pour aller un petit peu plus loin. Mais je pense qu'il nous manque finalement dans le modèle, il nous manque pas tant de choses que ça, et c'est pour ça que c'est intéressant, et que le dialogue entre tous les acteurs du territoire est une véritable richesse qui nous permet d'imaginer ce dispositif.
Violette Guillot.
Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, on a mis en place au niveau du territoire un comité de pilotage qui rassemble les différents acteurs qui peuvent agir autour de la précarité énergétique. Donc, au niveau du Conseil général, on a différentes directions qui sont concernées. Et au niveau du local, on a aussi bien les bailleurs que CCAS. Donc, c'est centré sur la commune pour l'instant de Villefontaine. Hein. On constate que chacun a une part de solution. Tout le monde n'a pas la solution à lui tout seul. L'idée, c'est de voir comment on essaye de travailler ensemble, et quand il y a un projet, que ce soit du bailleur ou de la CAPI, comment on essaye de mettre le paquet sur ce projet-là et de mettre toute notre énergie, chacun, autour du projet, en particulier en mobilisant aussi les locataires. On a certains locataires quelquefois, enfin, ou certaines personnes qui viennent nous voir, qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole. L'idée, c'est aussi, comme vous le disiez, d'associer les habitants aux plus proches, pour qu'ils puissent participer aussi aux réunions, aux réhabilitations qui peuvent être faites par les bailleurs, comment eux, ils prennent aussi leur rôle et leur part dans ces domaines-là.
Pour rebondir sur ce que dit Violette, elle a complètement raison, c'est qu'aujourd'hui on est sorti d'une politique du haut en bas, on est plus dans une concertation, et on est dans une concertation. Avant de dire on va faire, on va déjà rencontrer l'habitant et voir avec lui les problèmes qu'il a, les problèmes qu'il vit au quotidien, puisque c'est son chez lui qu'on va toucher. Et en fonction de ça, on va travailler, on va faire travailler nos architectes, on va faire travailler nos bureaux d'études pour voir quelles solutions on peut apporter. Puis c'est de lui faire partager aussi les difficultés, parce que tout à l'heure on dit qu'est-ce qui manquait. Effectivement, le lien est là. Il nous manque toujours un peu d'argent, c'est clair. C'est qu'aujourd'hui, on a beau dire, on a beau faire, on s'aperçoit bien qu'il y a des groupes et des immeubles qui restent sur des productions en attente de 4 ou 5 ans, parce que le financement est pas toujours au rendez-vous et qu'il faut faire des choix. Et du coup, le choix est arbitraire, il faut l'expliquer aussi. C'est comme chacun, quand il veut changer de voiture, eh bien des fois, il se pose la question de savoir si est-ce que je fais réparer pour que ça dure un an ou deux, et puis je verrai dans 2 ans ce qui va se passer. Ben là, c'est un peu la même politique, mais c'est de faire participer l'habitant pour qu'il sache où on en est, ce qu'il en est. Et puis voir avec lui quel choix on va faire. Voilà, il y a un choix, ça coûte 10, un choix, un coup de 100. On fait participer aussi financièrement l'habitant, en toute mesure, parce que quelque part, c'est aussi ne pas vouloir le mettre en difficulté quand il y a trop de dépenses, et de regarder le juste milieu et la capacité financière qu'il aura à payer. Une fois qu'on a fait le choix, ben on s'engage et on signe un peu quelque part une charte d'engagement en disant voilà, nous on veut que les charges diminuent de 30%, donc on va mettre en place des plans d'action. Et c'est là aujourd'hui où l'habitant est vraiment acteur. Et il n'est plus dans une démarche où on dit on m'a imposé, on n'impose rien du tout. On travaille avec eux, on voit avec eux ce qu'on peut apporter et on fédère ces comités de locataires. On en a besoin en tous les cas.
Mais là, c'est encore engendrer des frais pour les locataires.
Alors, c'est engendrer des frais, je dirais, c'est comme une mesure. C'est oui, effectivement, c'est engendrer des frais.
Dans un premier temps, pour après en gagner.
Oui, alors, pour en gagner, au moins limiter. Tout à l'heure, ce qu'on disait, j'ai noté, quand on disait, l'idée, c'est quand même de réduire. Oui, peut-être réduire, mais en tous les cas, je dirais ne pas augmenter plus. Aujourd'hui, on peut mettre tous les meilleurs procédés en route et en marche pour faire diminuer les charges. La charge, elle est aussi liée au combustible, à la fourniture. Et cette fourniture-là, on la maîtrise pas toujours. Et si au moins on peut déjà faire une enveloppe du bâtiment qui soit au mieux, on va pouvoir au moins limiter l'augmentation de cette consommation sans pour autant être maître sur le coût de la fourniture.
Sachant que dans les années à venir, ce coût-là risque d'augmenter. On sait très bien que les EDF, GDF, l'électricité, le gaz, tout va augmenter.
Julien Ducrotois, vous êtes responsable du pôle animation sensibilisation à la Jaden. Vous allez à la rencontre de la population, des habitants. Quels sont les problèmes rencontrés par les locataires, propriétaires, quand on frappe à la porte d'Ajaden? Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? À part l'information, un accompagnement, des aides aussi?
Alors la GEDEN a une mission de conseil qui s'adresse autant aux propriétaires qu'aux locataires. Et cette mission de conseil est donc neutre et indépendante. On a entendu tout à l'heure qu'effectivement il y a pléthore d'offres sur le marché pour des personnes qui veulent s'engager dans des rénovations ou des constructions. La GEDEN, n'ayant aucun service commercial, va pouvoir apporter un point de vue indépendant. Voilà, sur des choix. Également, elle s'adresse pas que aux propriétaires qui vont engager des travaux. Elle s'adresse également aux locataires. Alors, on a cité tout à l'heure les économies qu'il est possible de faire via des éco-gestes, c'est-à-dire des changements de comportement. Mais il faut pas omettre aussi qu'il y a certains petits travaux qui peuvent améliorer sensiblement avec des petits budgets le confort dans les logements.
Quels sont ces travaux-là?
Alors, ces travaux-là, ça peut être renforcé, par exemple, sur des menuiseries, donc des fenêtres qui auraient travaillé avec le temps qui serait voilé, renforcer les joints afin d'avoir une meilleure étanchéité à l'air. Ça peut passer par aussi des simples boudins de porte, ça peut faire sourire, mais finalement, c'est assez efficace si on a des gros courants d'air froid dans la maison. Ça peut passer par changer des joints de frigo. Voilà, il y a plein de petits travaux comme ça sur lesquels les conseillers énergie de la GEDEN peuvent apporter des informations. Il faut aussi pas hésiter. Là, je m'adresse aux auditeurs qui seraient tentés de faire des petits travaux. Il faut faire attention aussi à la qualité de l'air, puisque des logements où parfois il y a des problèmes d'humidité, en calfeutrant trop, on peut aussi aller vers des plus gros problèmes de qualité d'air. Je pense aussi aux solutions de chauffage d'appoint, qui sont parfois des solutions un peu rapides que prennent des persones qui sont en difficulté.
Et là, il y a prudence, oui.
Voilà, par rapport au rejet de monoxyde de carbone. Donc voilà, les conseillers énergie sont là, disponibles par téléphone et sur le territoire présent à Bourgoin-Jallieu pour recevoir les personnes qui souhaitent des conseils.
Quelques petites pistes d'aide financière?
J'ai pas répondu à la question qui portait sur les aides. La GEDEN propose sur son site internet, et également les conseillers énergie peuvent informer sur toutes les aides financières qui traitent à la rénovation.
Mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Et puis après, j'ai bien peur que les travaux soient vraiment importants, qu'après on abandonne l'idée.
Tout à l'heure ont été citées les aides de l'ANA, de l'Agence Nationale à l'Amélioration de l'Habitat, renforcées par la collectivité locale, la CAPI, et par le programme Habiter Mieux. Voilà, donc pour des personnes.
Mais si on n'habite pas sur la CAPI, par exemple.
Alors, si on n'habite pas sur la CAPI, élargir au-delà des aides qui sont destinées à des personnes qui ont des ressources très modestes, il existe plusieurs dispositifs. Il existe le crédit d'impôt développement durable, qui prévoit jusqu'à 30% du montant TTC d'aide sous forme de crédit d'impôt sur plusieurs postes qui traitent soit de l'isolation, soit du chauffage. Il existe un éco-prêt à taux zéro. hein, donc un prêt qui peut aller jusqu'à 30 000 euros remboursables sur 10 ans.
Avec ça, c'est pour les propriétaires.
Alors là, les aides que je détaille, elles s'adressent effectivement aux propriétaires. Hein, oui, j'aurais précisé en préambule. Si la question, elle porte sur des locataires, on va plutôt, du coup, dans le cas de la précarité énergétique, aiguiller vers le FSL qui a été cité, Fonds de solidarité logement, également le TPN, hein, tarif de première nécessité, qui peut être également voilà une solution, mais il n'y a pas d'aide de droit commun pour les locataires.
Et si alors on habite sur le territoire de la CAPI?
Donc si on habite sur le territoire de la CAPI, on a effectivement l'OPA, donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui a démarré depuis un peu plus d'un an, depuis le 1er septembre 2013. On a un opérateur, donc Urbanis, qui effectivement s'occupe, en tout cas pour ce qui est du volet précarité énergétique, parce qu'il y a d'autres thématiques, s'occupe donc effectivement d'accompagner les ménages gratuitement sur le type de travaux qu'ils souhaitent réaliser. Donc effectivement sur le volet précarité énergétique, c'est des propriétaires occupants. Donc c'est sous conditions de ressources. Aujourd'hui, les ménages sont financés à peu près 70%, ont à peu près 70% de financement public. La moyenne à peu près des travaux, c'est 15 000 euros par ménage. Voilà. Et du coup, on a eu principalement des travaux d'isolation, toiture, comble. Ensuite, on a eu changement de chauffage et puis également changement de menuiserie. Et on a pu effectivement aider 41 ménages sur le territoire concernant le volet précarité énergétique. Les subventions dont les ménages peuvent bénéficier qu'à travers l'OPA, on a effectivement en fait le Conseil général qui peut apporter ses aides dans le cadre du volet plan climat que vous avez. Il y a également l'ANA, le programme Habiter Mieux. C'est ce qui explique effectivement la part des subventions qui reste effectivement assez importante et qui favorise justement la possibilité à ces ménages de réaliser des travaux d'économie d'énergie.
C'est 70% un petit peu près.
À peu près, voilà.
À peu près, hein. Mais alors, c'est 30%.
Ça dépend des situations. Ben après, il reste à charge, effectivement, pour le propriétaire occupant ce coût-là. L'opérateur, effectivement, accompagne en fait le ménage du début, c'est-à-dire il fait la visite, il vérifie effectivement les travaux, la capacité financière du ménage, et ensuite vérifie également les devis de l'entreprise et l'accompagne tout au long du processus, effectivement, dépôt du dossier et solde du dossier. Mais l'opérateur vérifie la capacité financière, effectivement, des ménages. Et ensuite, le critère pour être éligible au programme Habiter Mieux, au-delà de la question du plafond de ressources, c'est d'avoir un gain énergétique de 25% après travaux. Et aujourd'hui, on constate que finalement, après travaux, le gain énergétique est bien supérieur. On est en moyenne à 39%. Donc, ce qui veut dire que finalement, les ménages sont prêts aussi à quelquefois mettre finalement un peu plus d'argent, mais au final pour du coup avoir effectivement des factures énergétiques moindres après.
Pour compléter ce que dit Audrey, et vous disiez tout à l'heure, et les personnes qui n'habitent pas la CAPI, le Conseil général a mis en place aussi des permanences qui sont faites par des opérateurs et qui reçoivent les ménages en difficulté sur les secteurs où il n'y a pas d'OPA pour les aider. Ils font exactement le même travail pour faire un diagnostic sur quels sont les travaux nécessaires et faire un plan de financement en fonction des capacités financières des ménages. Donc ça, c'est, les permanences sont notamment sur le secteur de Derieux et sur le secteur de Saint-Jean-de-Bournay.
Une solution éventuelle aussi pour limiter la précarité énergétique, hein, c'est le défi famille énergie. Sophie Coquet, vous êtes référente sociale de l'action et co-capitaine de l'équipe famille à énergie positive. L'île d'Abo est arrivée première l'année dernière, hein, à ce défi. Vous renouvelez l'opération, les inscriptions sont en cours. Nous avons en ligne Florence. Florence, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez participé à l'opération Défi Famille à énergie positive l'année dernière.
Oui.
Pourquoi une inscription à ce défi et pourquoi un tel investissement au niveau de toute une famille? Puisque c'est une famille qui est finalement concernée, hein.
On a déjà fait une rénovation de notre logement. Donc, après, la continuité, ben, c'est Loïc du CCAS qui travaille avec Sophie, qui nous a proposé le projet pour continuer ce qu'on avait commencé. Et c'est vrai qu'après, ben, on s'est senti concerné par rapport à nos factures, tout ça, enfin Et puis pour les enfants, c'était aussi important de leur montrer que dans la vie, on peut quand même, en faisant un petit peu attention, économiser beaucoup.
Dans votre vie quotidienne, des contraintes, des inconvénients? Est-ce qu'il y a des inconvénients aussi? Peut-être pas.
C'était juste en fait réapprendre les bons gestes. Enfin, c'était juste ça, s'autocorriger les uns les autres. Et en fait, quand on est en famille, c'est beaucoup plus facile parce que justement, si l'un oublie, l'autre lui rappelle. Et en fait, c'était c'est les réunions qu'on avait chaque fois avec le CCAS. En fait, on nous donnait des indices. On était toute une équipe, donc après, c'est beaucoup plus facile aussi. On a juste fait un petit peu plus attention que ce qu'on faisait avant. On a fait attention de pas mettre le chauffage fort. Par contre, Internet, on n'a jamais arrêté le haut débit, qui n'est pas bien, mais on n'a pas vécu comme des ermites. Hein.
Alors, les économies réalisées durant le défi, pour vous concrètement, ça s'est vu sur la facture?
On a fait 62% d'économies sur notre facturation de l'année. Donc, si c'est traduit en euros, à peu près à 800 et quelques euros d'économies.
Les changements de comportement apportés lors du défi, c'est bien. Mais maintenant, aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que vous continuez ce changement?
Non, on continue. Hein. On continue, c'est le challenge à chaque fois. C'est quand on reçoit la facture d'EDF, on a le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'on a une toute petite facture.
Vous veillez.
Ou les enfants, n'oublie pas de me rappeler que j'ai pas éteint la lumière du couloir. Ça marche dans les deux sens, en fait. Ouais. Donc, c'est ça qui est super.
Est-ce que vous allez recommencer l'aventure? Est-ce que c'est possible de recommencer l'aventure d'année en année? Et puis aussi, que diriez-vous à la famille qui n'a pas encore eu le courage d'aller s'inscrire?
En fait, je pense que ceux de l'année dernière, ce qui est mon cas, moi, à la limite, je pense que ça serait mieux qu'on parraine justement des nouvelles familles, qu'on les guide. Parce qu'au début, c'est vrai que le projet, c'est pas vraiment concret, en fait. On nous parle, on nous annonce des chiffres, des façons de faire, des choses comme ça, et comme si, et en fait, on sait pas trop où on va. Puis, à chaque facture qu'on reçoit de nouvelles, et puis, à chaque fois, on devait marquer nos chiffres du compteur sur le site. Et à chaque fois, on voyait là, immédiatement, le pourcentage d'économies qu'on allait faire. Après, nous, est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense qu'on peut toujours faire mieux, oui.
Pour ajouter, en fait, on a un guide qui nous est fourni par la GEDEN qui reprend à peu près 100 éco-gestes. C'est impossible pour chaque famille de mettre l'ensemble des éco-gestes dans un logement. C'est pas possible. Mais par contre, généralement, on se focalise sur certains éco-gestes qui sont faciles à mettre en place dans le logement, dont les boudins de porte, éventuellement les rideaux, la consommation d'un frigo, pourquoi pas ne pas laisser un frigo vide, parce qu'un frigo vide, il consomme plus. Donc, on donne l'astuce, tout simplement, de mettre des boîtes de Tupperware, même vides, à l'intérieur de son frigo. Pour sa consommation d'eau, au niveau de la chasse d'eau, c'est remplir d'eau des petites bouteilles et la rajouter dans sa chasse d'eau pour consommer moins d'eau pour ceux qui n'ont pas la double position. Voilà, c'est des toutes petites choses qui sont faciles à aborder lors de nos réunions mensuelles.
Est-ce que c'est important d'être coaché, encadré? On ferait pas ça tout seul, hein?
Tout ça serait beaucoup plus difficile à réaliser, je pense. Et puis, au niveau des connaissances, on n'a pas forcément... Enfin, moi, les ampoules, je savais pas qu'il y avait autant d'ampoules qui existaient sur la planète. Et c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, je sais quelle ampoule je dois acheter. S'ils n'avaient pas été là, je continuerais à acheter mes anciennes ampoules qui consomment 3 fois plus, voire 10 fois plus que les nouvelles ampoules. C'est plein de petits objets qu'on a eu par rapport au CCAS tous les mois.
Je voulais rappeler le kit.
Le thermomètre pour surveiller notre température du logement. Plein de petites choses comme ça. C'est 3 fois rien, mais moi, avant d'intégrer le projet, j'y avais jamais pensé.
Dernière question, Florence, comment avez-vous pris connaissance de ce défi?
Moi, j'avais fait l'auto-rénovation avec le CCAS et en fait, c'est Loïc Berthoud qui m'en a parlé, qui nous a dit si ça nous intéressait de vouloir participer à ce projet-là, comme on avait tout rénové notre logement.
Vous êtes locataire de votre logement?
Oui.
Vous êtes locataire de votre logement pour un bailleur ou pas?
Oui.
Et le bailleur dans tout ça?
Simplement, ce que vous avez dit, c'est important, c'est que vous avez participé à une démarche qui est l'auto-rénovation, et par l'auto-rénovation, il y a eu un lien social qui a été créé, et donc c'est vrai que vous avez été sensibilisé déjà à cette démarche d'auto-rénovation, et pour vous en tous les cas, le projet justement sur ces économies, je dirais, personnelles, ont été, je vais dire, le petit plus qui a apporté, parce que vous étiez prête. Et ce que vous dites est intéressant, puisque on est toujours à la recherche, dans le cadre du partenariat, de gens comme vous qui soient capables d'aider, d'accompagner, et j'irai surtout de donner envie à son voisin de faire quelque chose. Hein. L'autre innovation, quelque part, c'est aussi ça, c'était l'entraide. Et c'est l'entraide entre voisins, c'est le lien social, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de son appartement pour aller frapper à la porte, voir le voisin, pour lui demander quelque chose, un service, hein, c'est l'échange de services. Et en tous les cas, je vous en remercie. Quand vous dites que vous avez rien fait d'autre que le papier peint et l'embellissement de votre logement, pour vous, c'est peut-être rien d'autre, mais pour nous, c'est tellement énorme d'avoir pris ces engagements avec vous pour refaire un logement, pour que vous vous ressentiez bien dans ce logement et que, quelque part, vous ayez envie d'y rester.
Vous incitez les locataires, effectivement, à s'approprier ce dispositif-là, hein, l'auto-rénovation. C'est certainement pas simple de franchir le pas aussi. Ça demande un accompagnement de la part des acteurs sociaux aussi. Il faut accompagner la famille dans le cadre de travaux, de l'appartement.
Oui. Non, franchement, non. Moi, j'ai juste eu une affiche en bas de chez moi et je correspondais aux critères, donc j'ai appelé. Ouais. Parce que notre logement était vraiment hideux. Il était propre, mais personne n'avait envie de rentrer chez nous. Donc, à un moment donné, il fallait bien trouver une solution pour qu'on se sente enfin tous bien dedans. Et c'est vrai que moi, Loïc nous a conseillé déjà, parce que voilà, il m'a dit que si je prenais du papier peint, je pouvais faire 30 pièces. Enfin non, ça a été vraiment un projet qui a été monté. C'était notre propre projet. Enfin, je veux dire, jamais personne m'a dit vous devez faire prendre tel papier, tel ci, tel ça. Enfin, c'était mon choix.
Vous avez été acteur, actrice.
Ah oui, mais à 100%. Et moi, je l'ai fait avec mes enfants. On avait 2 mois pour le faire. Donc, on a quand même refait un F4 entier à 4. Donc, c'était quand même un gros chantier. Et voilà. Et puis, Loïc, à chaque fois, il nous poussait pour pas qu'on baisse les bras. Parce que c'est vrai que, au début, c'est bien, c'est sympathique. Mais c'est quand même, c'est lourd. Et mais franchement, après voilà, puis bon, après je vous dis, on a été on nous a parlé du projet pour faire des économies d'énergie, donc on s'est dit c'est la continuité de ce qu'on a commencé.
Beau parcours pour vous, Florence. Donc alors, vous serez certainement marraine d'une famille à l'île d'Abo. Le nouveau défi, c'est du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015. Merci Florence pour votre témoignage. On vous souhaite de jours paisibles chez vous et dans cet hiver qui s'annonce. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Merci. À bientôt.
Du lundi au dimanche à 8h et 13h et le dimanche à 18h, retrouvez toute l'actualité de votre territoire dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM.
Christophe Delmastro, peut-être un petit mot aussi sur l'auto-rénovation. Au niveau des fournitures, du matériel, hein, c'est fourni?
Effectivement, l'auto-rénovation a été initiée il y a quelques années par la CAF pour cette démarche, en tous les cas, de lien social. Et comment est-ce qu'on peut faire sortir les gens de chez eux pour les accompagner sur d'autres actions? On a commencé, en tous les cas, avec l'île d'Abo, en partenariat. Le partenariat, tout à l'heure, on en discutait. Le partenariat, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui marche. C'est qu'à un moment donné, dans le partenariat, il faut aller des fois un peu plus loin que ses limites pour pousser les portes, pour tenter des expériences et puis poursuivre ses engagements et ses envies. En tous les cas, je me retourne vers Sophie. Quand on a commencé l'auto-rénovation, rappelle-toi, c'était très compliqué. Il fallait trouver déjà l'animateur technique qui, lui...
Sache accompagner.
Tout à fait.
Il fallait proche aussi des locataires.
Proche des familles.
Voilà. Une relation de connivence. Voilà.
Voilà. Et puis, ça a été aussi un engagement du bailleur, puisque le bailleur a dit, moi, dans cette démarche-là, je vais apporter le financement pour les fournitures, pour vous accompagner avec du petit matériel. Et c'est comme ça qu'on a créé un kit de... d'embellissement quelque part avec du petit matériel pour donner envie à chaque locataire qui s'inscrit dans cette démarche de faire ce qu'il avait prévu de faire et puis d'aller un peu plus loin par la suite. Mais oui, effectivement, on est partie prenante de cette démarche et on le sera tant que, en tous les cas, cette opération veuille bien vivre.
Beaucoup de familles s'inscrivent dans cette démarche d'auto-rénovation, ou pas suffisamment, mais...
On arrive à l'heure d'aujourd'hui à faire à peu près une vingtaine de chantiers par an.
Tout de même.
Voilà, donc 20 familles sont bénéficiaires de cette action. Voilà, entre 20 et 22, ça dépend les années.
Violette Guillot, hein, vous êtes chef de service du service social Conseil général de l'Isère Porte des Alpes. Quand on entend précarité énergétique et quand on entend vie sociale difficile, est-ce qu'on peut parler aussi de sentiments d'injustice, de restrictions, de privation pour certaines familles aussi? Est-ce que la vie est dure?
La vie est dure, et quand une famille n'arrive pas à payer sa facture, c'est vraiment une source d'angoisse, quoi, hein, c'est sûr. Mais en même temps, quand on écoute le témoignage de la personne là qui vient de Florence. Parler, on se dit, ben voilà, chacun a une part de la solution, et après il faut aller aider ces personnes-là à réaliser, ben, soit leur projet dans le cadre de l'autorénovation, où le Conseil général est également impliqué, et les accompagner effectivement à vivre mieux à la fois dans leur logement, ben, l'action autorénovation en est une illustration, mais également vivre mieux dans le quartier. Et on voit bien, et ça traversait le témoignage, que ben quand on est bien chez soi, du coup on a envie aussi d'aller vers les autres, et c'est un facteur d'insertion sociale qui est vraiment très très important.
Des actions adaptées, hein, sur chaque territoire. On peut rappeler aussi qu'à titre d'exemple, l'ACAPI distribue des kits d'énergie. Ils sont remis aux propriétaires occupants les plus modestes, hein, c'est ça, bénéficiant du programme Habiter Mieux. À l'île d'Abeau aussi, il y a des kits, hein, pour le défi. Et pour l'ACAPI,
c'est dans le cadre du dispositif de l'OPA. On trouvait effectivement que c'était intéressant, une fois que les ménages avaient réalisé les travaux, du coup, de les sensibiliser aux éco-gestes à travers notamment ce kit.
Alors, également pour le bailleur, parce qu'on s'associe à cette démarche, et c'est vrai que sur certains groupes en jeu, hein, sur lesquels on est à Villefontaine, à chaque entrant a été remis effectivement un kit en lui expliquant ce qu'il en était et l'enjeu. Et également pour les personnes qui étaient déjà en place et qui avaient vraiment envie de participer à cette économie, hein, avec la récupération de charges de l'année précédente, avec les consommations, parce que l'objectif n'est pas de donner pour donner, mais de donner pour gagner.
Je profite, hein, de votre intervention sur notre antenne, Christophe Delmastro. Vous êtes directeur de l'agence de l'OPAC à Villefontaine. Villefontaine est en pleine restructuration dans le cadre de l'ANRU. Un soulagement pour vous?
Alors, effectivement, un grand soulagement quand l'ANRU est arrivé. Aujourd'hui, on retravaille sur des périmètres qui sont définis dans une autre politique de la ville, en tous les cas. On ne sait pas, enfin on ne sait pas, on imagine en tous les cas demain de nouveaux financements, de nouvelles aides autrement. C'est clair que c'est une bouffée d'oxygène. L'agence ne s'arrête pas qu'à la ville nouvelle, enfin ex-ville nouvelle, CAPI, va au-delà de cette agglomération, et on est aussi sur des zones des fois tendues, qui le sont. Violette parlait de Saint-Jean-de-Bonnet tout à l'heure, effectivement ça nous préoccupe aussi. Et des petites communes sur lesquelles on n'en parle pas, mais des gens sont aussi en précarité et sur lesquelles il faut qu'on trouve aussi des solutions. Alors oui, effectivement, l'ANRU nous a apporté une bouffée d'oxygène, je dirais, pour réaliser certains travaux. On attend encore beaucoup demain avec ces nouveaux périmètres et cette nouvelle stratégie qui sera mise en place pour pouvoir, je dirais, lutter contre cette précarité énergétique en éradiquant l'ensemble de ces convecteurs et de ces chauffages électriques.
Geneviève Rollion-Bourcelin, vous êtes chef de projet pour le grand projet Rhône-Alpes Nord-Isère Durable, mais pas que, au niveau aussi du plan climat-énergie. Comment vous envisagez ce grand territoire dans ces prochaines années? Allez, si on avait une baguette magique. Vous avez une baguette magique?
Ça se saurait si j'en avais une, j'aimerais bien, hein, mais malheureusement, je n'en ai pas. Alors, ce grand territoire, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la réforme territoriale, hein, des échanges. L'ACAPI et les Vallons de la Tour ont préfiguré en quelque sorte cette réforme territoriale, puisque depuis 5 ans, les deux intercommunalités travaillent ensemble autour de ces sujets de la transition énergétique et de la construction durable, pour unir leurs moyens, leurs forces et leur énergie, j'ai envie de dire, et en partageant les mêmes problématiques, en se disant ensemble on sera plus fort. Après, que sera le territoire d'après-demain? Je crois que là, les politiques sont en train d'y réfléchir, mais Comme je n'ai pas de baguette magique, je ne saurais vous répondre.
Alors évidemment, nous avons balayé de façon générale cette thématique assez complexe, qu'est la précarité énergétique, baisser sa facture d'énergie, évidemment. Ça ne veut pas dire aussi faire abstraction de confort quand même.
Non, il ne faut pas rogner sur le confort domestique. C'est ce qu'on dit d'emblée à tous les participants du défi.
C'est important de le dire.
Voilà. On n'est pas là pour leur dire de mettre leur chauffage à 16. Non, c'est peut-être à 20, 21, parce que jusqu'à présent, ils chauffaient à 24 ou 25. Et baisser d'un degré, c'est déjà faire une économie de 8% sur sa facture.
Alors moi, j'invite évidemment les auditeurs à se rapprocher effectivement de différentes structures pour aller à la pêche aux informations auprès de la GEDEN, avec nous aussi le CCAS de l'île d'Abo, évidemment, la CAPI aussi en partie prenante, le service conseil général Porte des Alpes en cas de difficulté ou autre, et puis également se rapprocher des bailleurs parce que finalement, vous n'êtes pas si méchant que ça.
Merci si j'ai pu faire passer au moins ce message ce soir. Simplement, j'entends bien ce que vous dites, il y a deux choses. Quand on parle de loyer, il y a le loyer qui, malheureusement et heureusement pour nous, subit des augmentations, ce qui nous permet de réinvestir et de travailler. Et ça, on ne pourra pas y déroger. Et puis, il y a les charges. Et dans les charges, on parle de chauffage. Le chauffage, c'est un des plus grands postes, en tous les cas, avec le nettoyage. Et si on travaille sur ces charges-là pour pouvoir les diminuer ou permettre, en tous les cas, qu'elles n'augmentent pas plus que nécessaire, on aura gagné et gagné les uns avec les autres.
Merci beaucoup. Ça termine là peut-être l'émission. Nous retrouverons quelques informations utiles bien sûr sur le site www.coolerfm.com.
Cette émission vous a été proposée par les radios associatives iséroises avec le soutien du Conseil général de l'Isère. Retrouvez l'intégralité des émissions de cette série sur l'insertion en Isère sur le site web des radios associatives de la région Rhône-Alpes, www.crancra.org. Vous pouvez également consulter le site web du Conseil général pour davantage d'informations sur les actions engagées dans le programme départemental d'insertion 2012-2014, www.isere.fr.